d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris, Olivier Roux.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. À Washington, c'est l'un des pays dont on parle beaucoup en ce moment, mais pour de mauvaises raisons. L'Ukraine et les tentatives de pression de Donald Trump sur le président Zelensky sont au cœur de la procédure d'impeachment lancée par les démocrates au Congrès. Mais l'Ukraine et son économie sont bien autre chose qu'un pays marionnette en jeu de rivalités politiques américaines ou victime de la soif expansionniste de Moscou. L'Ukraine, c'est une grande puissance agricole, un pays à l'économie diversifiée, un pays potentiellement riche mais dont la population sera beaucoup plus à l'aise qu'elle ne l'est à l'heure actuelle si le jeune président Volodymyr Zelensky tient ses promesses de réforme économique, si son plan ambitieux de 40% de hausse du produit intérieur brut en 5 ans fonctionne et s'il obtient des résultats dans sa lutte contre la corruption. L'Ukraine va-t-elle convertir son potentiel économique? C'est la question centrale de cette émission avec trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Christina Kornetska.
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité.
Christina Kornetska, vous êtes une spécialiste des questions agricoles. Vous êtes consultante auprès d'entreprises internationales de négoces agricoles. Avec vous dans ce studio, Christine Dugoin-Clément, bonjour.
Bonjour.
Christine Dugoin-Clément, vous travaillez au sein du CAP, le Centre d'analyse de la politique étrangère, un think tank pro-européen. Vous avez signé en 2015 avec Mathieu Bouleg un livre intitulé « L'Ukraine entre déchirement et recomposition chez l'Armatan ». Et je termine cette première présentation par vous, Alain Guillemolle, bonjour.
Bonjour.
Alain Guillemolle, vous êtes journaliste à La Croix au service économie. L'Ukraine est un des pays que vous couvrez assidûment, vous y consacrez un blog et puis un livre, « Ukraine, le réveil d'une nation ». C'est le titre de cet ouvrage publié aux éditions Le Petit Matin. L'Ukraine, où nous rejoindrons au cours de cette émission notre correspondant Sébastien Gobert, qui nous a envoyé une série de reportages. Le fils d'un vice-président américain qui fait des affaires le plus légalement du monde, semble-t-il, en Ukraine, l'avocat personnel de l'actuel président américain qui s'acoquine avec des ressortissants ukrainiens douteux, le président américain Donald Trump qui suspend l'aide militaire américaine à l'Ukraine pour obtenir des informations qui n'existent pas sur un ex-vice-président, candidat démocrate à la présidence. Qu'est-ce que cela dit sur les relations économiques entre les États-Unis et l'Ukraine, Alain Guillemolle? Est-ce qu'elles sont importantes, ces relations? Parce qu'il semble qu'elles le soient au vu de tout ce qui se passe en ce moment à Washington, de tout ce qu'on dit de l'Ukraine.
Alors écoutez, ça je crois que c'est surtout un peu l'écume de la vague, c'est-à-dire c'est ce qu'on voit et c'est effectivement assez spectaculaire parce que sont mêlés à ces affaires des grands noms de la politique américaine. Mais enfin, l'intérêt des États-Unis pour l'Ukraine est davantage politique qu'économique. Enfin, l'Ukraine peut présenter un intérêt économique pour les États-Unis en tant que client, par exemple, du gaz de schiste américain. Bon, ça peut être un débouché, mais c'est plutôt un pays qui exporte du métal,
des céréales.
Oui, alors pas vers les États-Unis, mais enfin voilà. Et donc c'est pas un pays qui économiquement est vu comme stratégique. En revanche, sa position politique, géopolitique, fait qu'il est regardé de très près, notamment parce que il y a depuis la guerre froide, enfin une politique de containment de la Russie et que la Russie plus l'Ukraine, c'est un empire et une très grande puissance. La Russie sans l'Ukraine, c'est un pays, disons, une puissance moyenne, en tout cas moins importante. Et donc, vu du point de vue des États-Unis, il y a historiquement cette volonté, de nouer des relations avec l'Ukraine, de s'appuyer sur l'Ukraine et d'intégrer l'Ukraine dans l'ensemble européen. Ce qui rejoint d'ailleurs une partie de la volonté des Ukrainiens.
Oui, Christine Dugoin-Clément, on voit quand même que l'Ukraine a besoin de l'aide militaire américaine de quelque 250 millions de dollars que Trump avait suspendu. Est-ce que ça veut dire que l'Ukraine a besoin de l'aide extérieure pour boucler ses fins de mois?
À l'heure actuelle, l'Ukraine a une économie qui est délicate, notamment due au fait du conflit, avec une évolution de PIB qui est certes de 3 à 4%. On a eu des petites explosions à 4,6%, notamment sur les trimestres de 2016, mais qui reste inférieure à ce que on pourrait attendre d'un pays qui a une macroéconomie stable et qui a accès notamment au marché de l'Union européenne. Donc on est dans quelque chose d'extrêmement délicat. On a besoin des fonds du FMI et puis on a besoin d'investir extérieur aussi. Or, pour avoir un investissement extérieur, il faut avoir confiance dans la structure interne du pays, qu'elle soit tant de corruption que de stabilité étatique. Donc, à l'heure actuelle, oui, tout ce qui va toucher, qui va modifier l'équilibre économique a un impact extrêmement important.
Kristina Kolinska, vous pensez aussi que cette économie ukrainienne est délicate, comme le dit Christine Dugoy?
Oui, j'ai rejoint tout à fait ma collègue dans ses propos, parce que l'Ukraine, en fait, elle avait une explosion de la dette publique avec le début de conflit. Donc même maintenant, ça s'est un peu arrangé, mais pour poursuivre de rembourser cette, en fait, de servir cette dette, on a besoin de la situation macroéconomique stable et politique, géopolitique stable également.
Mais cette situation économique, est-ce qu'elle est stable? Puisqu'on parle de géopolitique, on parle du conflit, on y reviendra à l'est du pays, de l'annexion de la Crimée. Est-ce que c'est la situation économique en tant que telle? Christine Dugoin cite des chiffres qui ne feraient pas lire d'envie beaucoup de pays européens, 4% de croissance du produit intérieur brut. Est-ce que la situation économique est stable?
Avec les réformes qui étaient initiées par les derniers présidents Porochenko, donc, et qui sont, je suppose, maintenant soutenues et poursuivies par les actuels présidents, la situation semble corrigée, il semble d'être stable. Mais on a besoin de continuer et de réaffirmer la volonté d'Ukraine de poursuivre les réformes et de l'accentuer encore un peu plus.
Stabilité économique, Alain Guillemot, en Ukraine?
Oui, moi je serais même un peu plus positif que ça. Enfin, je dirais que sur la grande majorité de son territoire, disons, sur 90% du territoire, il y a plutôt une dynamique positive. Enfin, ce qui est structurant pour l'économie ukrainienne aujourd'hui, c'est le fait que c'est l'accord d'association avec l'Union européenne. C'est-à-dire que à la suite de la révolution
de Maïdan
en 2014 et 15, les Ukrainiens ont obtenu la signature de cet accord d'association avec l'Union européenne et qui leur ouvre les portes du commerce vers l'Union européenne. Et donc, il y a une dynamique assez forte d'augmentation des exportations et en particulier qui touche beaucoup les produits agricoles, les produits l'agro-industrie, mais aussi les produits de petites et moyennes entreprises qui se créent dans tout l'ouest de l'Ukraine. Et donc il y a une dynamique de création de petites entreprises qui exportent des produits, des skis, des pièces détachées pour le secteur automobile, et qui exportent vers l'Europe centrale. Et donc ça, c'est assez important, et c'est-à-dire on a un basculement. L'économie ukrainienne reposait beaucoup sur l'actif dans la période soviétique, et puis après, dans les années qui ont suivi, reposait beaucoup sur les grands combinats des villes de l'est de l'Ukraine,
qui reposaient sur l'existence
des grandes
de
villes industrielles.
Charbon.
Alors il y avait du charbon, de la métallurgie, et puis aussi beaucoup de d'industrie militaire. L'Ukraine était une grosse base de production pour l'industrie militaire soviétique. On ne sait pas, par exemple, que l'Ukraine fait des fusées, des lanceurs de...
Aujourd'hui.
Alors, elle continue, oui, dans une usine qui est à Dniepropetrovsk, Yuzhmash. Elle produisait des lanceurs qui servaient à la fois pour le militaire et pour le civil. Et donc ça continue, mais c'est des usines qui sont en grande difficulté aujourd'hui.
Parce qu'elles sont vétustes ou parce qu'il n'y a pas de marché?
Parce qu'elles sont vétustes et parce qu'elles ont du mal à trouver des marchés, oui, des débouchés. Et qu'elles ont du mal à se transformer. Et donc toute cette économie-là, qui est, on peut dire, le reste de la vieille économie soviétique, est à la peine. Et par contre, aujourd'hui, il y a un autre moteur économique qui se met en route, qui prend le relais. Grâce aux débouchés qui s'ouvrent vers l'Union européenne, il y a tout un d'autres secteurs qui se créent avec des petites industries privées reposant donc plus sur l'initiative d'entrepreneurs et donc dans l'ouest de l'Ukraine. Et donc il y a un rééquilibrage de l'économie,
c'est-à-dire que plus vers l'ouest que vers
plus l'est. Vers l'ouest que vers l'est. C'est-à-dire les régions qui sont le plus en progression économique sont à l'ouest et au centre de l'Ukraine, alors que l'est, le vieil est industriel est en difficulté et se trouve un peu plus à la peine aujourd'hui.
Christine Dugoin-Clément, voilà près de 30 ans exactement, 28 ans que l'Union soviétique a implosé ou explosé, et que l'Ukraine est un pays indépendant. En 91, quelle était la situation économique de ce grand pays ?
La situation économique de l'Ukraine a souvent été délicate, et comme le disait donc Alain, reposait sur de l'économie lourde, et notamment avait des liens, et c'est ça qui est très important, très fort avec la Russie. C'est-à-dire qu'on avait des échanges commerciaux qui étaient historiquement tissés et tournés au sein de l'URSS d'abord, et ensuite vers la Russie. C'est-à-dire que quand effectivement on a eu tout cet effondrement, ça a été très délicat, notamment parce qu'il y avait un problème de compétitivité par rapport aux autres industries lourdes des autres pays, et parce que on n'avait pas forcément ouvert le marché comme d'autres l'avaient fait sur l'extérieur. Donc il a fallu faire une recomposition qui est assez importante. À l'heure actuelle, on voit encore que on est encore dans une relative délicatesse à restructurer une économie de manière complète, comme cela a été dit précédemment, en changeant les accès. L'autre ressource forte était tout ce qui est d'origine agricole, notamment la production céréalière. C'est encore vrai à l'heure actuelle, notamment grâce aux récoltes de blé qui ont été assez exceptionnelles et qui ont permis d'avoir un push au niveau...
Qu'est-ce que vous appelez un push ?
C'est-à-dire que, classiquement, si vous voulez, l'Ukraine, notamment sur les exportations céréalières, se retrouve en concurrence avec d'autres pays. Alors si on prend sur l'ancien bloc soviétique, vous allez avoir Kazakhstan, Russie, et a une grosse production à l'export. Là, il se trouve que cette année, les récoltes ont été extrêmement bonnes en Ukraine, donc avec une capacité de vente, là où d'autres ont eu de moins bons résultats. Ça a permis donc de vendre beaucoup, d'avoir des entrées de devises assez fortes. Mais je pense que là, vous allez être sur le champ agricole.
Oui, je me tourne vers Christina Kornetska. Vous confirmez, l'Ukraine est en très bonne position cette année sur le plan de ses exportations céréalières.
Oui, tout à fait. L'Ukraine, elle est depuis, avec d'autres pays de la mer Noire, elle est depuis des années, elle garde quand même une très bonne position en tant qu'exportateur des produits agricoles, notamment grâce à ses prix qui sont très compétitifs, à ses coûts de production qui sont assez bas. Mais cette année, particulièrement, l'Ukraine elle a bénéficié également un peu de retrait de la Russie de marché de céréales, parce que en fait, en Russie, il y a toute la restructuration de cette secteur des céréales. Il y a des propriétaires qui changent et les producteurs qui retiennent la récolte parce qu'ils sont de plus en plus riches et donc ils peuvent se permettre de...
Ça des spéculent.
Voilà, ils peuvent se permettre d'attendre les meilleurs moments pour les vendre, ou les marchés locaux payent mieux. Donc cette année, comme c'était un peu exceptionnellement, l'Ukraine elle a pris les marchés traditionnels, marchés russes. Donc, elle a pu exporter déjà la moitié des sons disponibles exportables à ce moment-là.
Mais est-ce qu'on a un chiffre ? Est-ce que vous avez un chiffre à donner sur la production moyenne de céréales en Ukraine ? Quel tonnage est-ce qu'ils produisent à peu près ?
La dernière récolte cette année, c'était autour de 70 millions tonnes de céréales. Donc, quand je parle de blé, de maïs et des oranges.
Alain Guillemot, la terre ukrainienne, c'est une terre très nourricière, très riche. C'est une terre noire, dit-on.
Oui, alors l'Ukraine a cette chance effectivement d'avoir une bonne partie de son territoire qui est couvert d'une terre qu'on appelle le Tchernosium. Tchern est en russe, hein, c'est, ça veut dire noir. C'est cette terre noire qui est particulièrement riche et qui est donc très fertile et propice à la culture des céréales. Enfin, on a tous appris à l'école quand on était enfant. Enfin, on parlait de l'Ukraine comme le grenier à blé de l'Europe. C'est une expression, enfin, qui est gravé dans nos souvenirs d'écoliers.
Et pour une certaine génération.
Pour toute une génération, voilà, à laquelle j'appartiens. Et effectivement, ça correspond à une réalité, oui. Moi, j'ai l'habitude aussi de dire que bon, c'était le grenier à blé et puis un peu la cave à charbon, parce qu'en fait, c'est les deux ressources de l'Ukraine. C'est ça, quoi. C'est le blé, le charbon.
Mais quand on va sur ces terres ukrainiennes, sur ces terres agricoles, c'est une terre particulièrement lourde. Est-ce qu'elle est vraiment noire quand on s'y promène? Les champs sont noirs.
Oui, elle est de couleur foncée et noire, oui, et particulièrement fertile. Enfin, c'est surtout un paysage, enfin, qui est familier aussi à tous ceux qui ont vu des films de l'époque soviétique des années 60 et 70. C'est-à-dire ces grandes plaines très plates où les moissonneuses-batteuses peuvent avancer côte à côte, vous voyez, et récolter. Enfin, c'est l'économie en marche, hein. Les moissonneuses-batteuses qui récoltent le blé, qui produisent et fabriquent la richesse, la ressource principale de ce pays, oui.
Christina Kornetska, vous vouliez ajouter quelque chose sur ces terres?
Tout à fait. En fait, les terres ukrainiennes, au même titre qu'une partie des terres russes et moldaves aussi, ils sont très grasses. Et en fait, il y a beaucoup la composition de matière organique, elle est très élevée dedans. Et c'est fait que ces terres, ils retiennent l'humidité de manière plus forte que les terres ordinaires, je dirais. Donc les cultures sont moins sensibles à la manque d'eau. Et pour petite anecdote, je peux rajouter, quand je suis arrivée en France d'Ukraine, et donc je me suis promenée un petit peu en voiture dans les campagnes françaises, et moi je n'arrivais pas à comprendre où sont les terres, en fait, parce que moi, dans ma tête, les terres, ça peut être que noir, donc j'ai pas vu d'autre chose.
Alors, cette terre agricole ukrainiennes, elles ont une particularité, c'est que depuis une décision de 2001, l'Ukraine est un des 6 pays au monde à ne pas avoir de marché foncier. On ne peut ni acheter ni vendre de lopins de terre. Le système de baux est en place, est opaque, il encourage la corruption et favorise les grands propriétaires, mais tout cela est peut-être sur le point de changer. La majorité parlementaire de Volodymyr Zelensky a voté en première lecture le 13 novembre dernier la levée de ce moratoire sur le négociation des terres. C'est un premier pas historique qui pourrait générer, s'il est confirmé, 2% de richesse nationale supplémentaire par an, selon la Banque mondiale. Mais cette décision ne va pas sans controverse. C'est un reportage Écho d'Issy-Écho d'ailleurs, signé Sébastien Gobert à Kiev.
240 voix pour. C'est dans une ambiance électrique que les députés ukrainiens ont voté le 13 novembre pour abolir le moratoire sur la vente des terres. Il était décrié comme un anachronisme imposé jadis par le Parti communiste. C'est un marché d'au moins 32 millions d'hectares de terres arables qui devrait ouvrir en octobre 2020. Pour l'économiste Timothy Hash, joint par Skype, c'est une révolution.
Cela pourrait initier la transformation de l'agriculture, des sociétés rurales, mais aussi des finances publiques. Si l'État reçoit des dizaines de millions de dollars de la vente des terres, cela peut aider à réduire le déficit. On peut imaginer la création d'un fonds agricole indépendant pour investir dans les campagnes sur la durée. Le potentiel est fantastique, à condition que le contenu de la loi soit pertinent.
En Ukraine, ils sont nombreux à considérer que la loi n'est pas bonne pour le pays et qu'elle est en fait un nouveau diktat du FMI. Pendant que les députés procédaient au vote, des centaines de manifestants avaient amené un cochon mort dans un cercueil devant le Parlement. Le symbole était clair, la vente des terres signifie la fin de l'agriculture ukrainienne. Et dans l'hémicycle, l'opposition donnait aussi de la voix, comme l'ancienne première ministre Yulia Tymoshenko.
Vendre la terre, ce serait donner le contrôle de l'Ukraine à de grandes et puissantes corporations transnationales. On nous dit que ce n'est pas un problème, qu'ils font du bon travail pour réformer l'Ukraine. Mais alors, qui sommes-nous, les Ukrainiens? Des esclaves qui ne sont ici que pour servir les oligarques et les étrangers?
Une majorité d'Ukrainiens ne souhaite pas l'ouverture du marché de la terre, selon plusieurs sondages. On regrette le manque d'aide aux petits fermiers ou encore la superficie de terrain qu'un individu peut acquérir. Selon ce projet de loi, c'est 200 000 hectares, 100 fois plus que ce qui est autorisé en France. Beaucoup redoutent donc une concentration de la terre dans les mains des plus riches. Ces critiques sont exacerbées par des campagnes de désinformation. Aussi, le président Volodymyr Zelensky s'efforce-t-il de calmer les passions dans une de ses vidéos selfies. Il promet d'aider les agriculteurs les plus modestes et de s'en remettre au peuple pour une question aussi fondamentale.
C'est seulement à travers un référendum que nous déciderons si les étrangers peuvent acheter de la terre ukrainienne. Nous avions promis de consulter la société par référendum sur les questions les plus sensibles. Nous allons l'organiser dans un futur proche.
Volodymyr Zelensky ne prend pas position sur la question, mais cette réforme lui crée des problèmes. Son taux de soutien a chuté de 73% en septembre à 52% en novembre. Il est au pouvoir depuis moins de 6 mois, mais c'est bien sur cette question historique pour un grand pays de tradition agraire que le président joue une grande partie de son mandat.
Un reportage signé Sébastien Gobert dans Écodicier Éco d'ailleurs sur RFI où nous parlons, vous l'aurez compris, de l'économie ukrainienne avec 3 invités, Christina Korneska, Christine Dugoin-Clément et le journaliste Alain Guillemol. Alain Guillemol, pourquoi cette réforme est-elle si importante, cette réforme foncière ?
Elle est importante parce que, effectivement, à partir du moment où on autorise l'achat des terres à des étrangers, c'est l'arrivée de flux d'investissements massifs qui pourraient se tourner vers le secteur agricole ukrainien. Jusqu'à présent, l'interdiction d'acheter des terres n'a d'ailleurs pas empêché un certain nombre d'entreprises de louer ces terres et de quand même d'investir sur place. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où l'achat est ouvert, il y a le risque que de grandes surfaces passent aux mains, en particulier d'entreprises chinoises, hein, puisque c'est les Chinois sont les premiers à être intéressés à acquérir de la terre dans cette région-là. Et c'est ça qui explique la réticence aussi d'un certain nombre d'Ukrainiens, parce qu'ils ont bien compris, et on le voit dans tous les pays dans lesquels il y a des investissements comme ça, des achats de terres, il y a une réticence qui se comprend très bien, avoir de grandes surfaces de territoire être soustraites au contrôle. Alors c'est au contrôle du pays, et donc il est assez compréhensible que cette ouverture se fasse d'une manière contrôlée. Moi, je dirais quand même que le fait que le marché de la terre n'ait pas été ouvert depuis l'indépendance de l'Ukraine en 1991, n'ait pas été ouvert aux achats, a quand même protégé l'Ukraine. Il a permis de développer son secteur agricole par ses propres moyens, par ses propres forces, enfin de s'appuyer sur cet atout qui est quand même le sien. Et donc, même si vous l'avez dit en lancement du reportage, hein, vous avez parlé de l'opacité de ce marché, c'est vrai que bon, ça a permis la constitution de grandes fortunes ukrainiennes de gens qui sont investis dans le secteur agricole. Mais d'une certaine manière, il est quand même mieux, je crois, qu'un pays puisse développer son économie par ses propres moyens et quand même un certain nombre de protections de ce marché avant de graduellement l'ouvrir et d'une manière contrôlée.
Christina Korneska, l'agriculture ukrainienne a besoin de beaucoup d'investissements. En plus de ceux qui sont déjà là ?
Je crois que oui, notamment pour l'instant l'Ukraine est la valeur ajoutée par hectare beaucoup inférieure par rapport à un pays européen, et même les pays voisins, donc ex-pays de bloc soviétique. Et justement, c'est s'explique par le fait que l'Ukraine, elle est concentrée maintenant sur les céréales, donc qui sont à faible valeur ajoutée. Donc pour développer d'autres filières, je sais pas, les fruits ou autres, les filières avec plus grande valeur ajoutée pour développer les cultures, ils ont besoin d'irrigation, on a besoin de plus d'investissements. L'investissement peut venir quand l'entreprise peut posséder de ses terres. Donc, si personne ne va investir dans quelque chose qui peut être repris le lendemain. Donc, moi, je crois que oui, c'est nécessaire. Et en plus, par exemple, pour des petits propriétaires qui sont, je sais pas, moins de 500 hectares, ils ont des problèmes d'accès au crédit. Ici, ils pourront mettre leur terrain en tant que garantie, en tant que collatéral. Ils pourront accéder au crédit de manière plus facile et donc développer, se diversifier également.
Mais à l'heure actuelle, Quelle est la proportion de terres agricoles qui est aux mains de compagnies étrangères, de puissances étrangères, puissances capitalistes, je dirais.
C'est difficile de les quantifier parce que vu que les marchés il est pas clair et ces parcelles de terre appartiennent aux paysans, aux habitants de villages. Il y a tant de contrats de location, de relocation que quantifier également quels hectares sont cultivés par qui, il est assez compliqué, à mon avis.
Cette opacité, Christine Dugoin-Clément, c'est un problème ?
C'est un problème, mais je voudrais revenir aussi sur la capacité d'investissement liée à l'agriculture. Si on regarde, alors selon les chiffres, mais on estime que l'agriculture porte 10 à 12% à peu près du produit économique ukrainien. En poids moyen sur
le produit intérieur brut,
en apport économique. Or, on parlait de la problématique de l'investissement. Et là, à mon avis, il y a quelque chose qu'il faut souligner, c'est le problème bancaire par rapport au prêt et à l'investissement. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a des taux d'intérêt qui sont extrêmement hauts au niveau bancaire et qui sont trop hauts pour permettre de financer de l'investissement sur des prêts commerciaux, sous contrôle de mes collègues, mais on est autour de 20-22%. Sur des taux à intérêt personnel, on va être alors encore une fois, c'est un poids moyen de ce que je vous donne, autour de 17,5, ce qui nous fait un taux réel de 14% par an en intérêt, ce qui est énorme. Et c'est trop important pour permettre de financer de l'investissement. En outre, les banques qui ont survécu à la réforme bancaire ont un gros problème, ce sont les prêts non productifs, qui est un taux énorme, c'est-à-dire des prêts qui ne sont pas remboursés. Parce qu'on a des problèmes d'immunité, etc. Et tant qu'on a le moratoire sur les terres, on ne peut pas s'appuyer, faire des prêts sur les terres.
Alors, ce sont des prêts agricoles, en quelque sorte, que vous évoquez là, des
pas
prêts.
Pas forcément. Non, non, les prêts, ça c'est.
Qu'est-ce que vous appelez des prêts non productifs?
Des prêts non productifs, c'est-à-dire que vous prêtez de l'argent à des gens qui ne payent pas, qui vous les remboursent pas forcément. Et certains le font en usant d'un pouvoir fort, type oligarchique, parce que soit on a des intérêts, soit parce qu'on a utilisé des principes type de blanchiment, ou soit parce qu'on peut parfois bénéficier d'une immunité. Et ça, ça pose
là,
un problème lourd.
On touche au problème de la corruption,
D'un système qui est dysfonctionnant d'un point de vue économique et qui notamment va utiliser des anciennes habitudes effectivement liées à la corruption ou à des systèmes oligarchiques antérieurs.
À la guillemot, le système bancaire ukrainien, il est en difficulté d'après ce qu'on entend là?
Alors, effectivement, les taux d'intérêt sont hauts et c'est un problème qui pèse sur l'ensemble de l'économie. Enfin, il faut quand même souligner que après la révolution du Maïdan,
en 2014,
la banque centrale ukrainienne a fait un gros effort pour fermer un certain nombre de banques et assainir ce secteur bancaire. Plusieurs banques ont été fermées, des petites banques. La grande banque du pays, qui s'appelle la Private Bank, a été nationalisée. C'est d'ailleurs un problème qui est récurrent parce qui revient dans l'actualité aujourd'hui, puisque le nouveau président s'interroge sur faut-il ou ne faut-il pas revenir sur cette nationalisation. Mais enfin, le consensus est quand même de dire que cette nationalisation a été bénéfique parce que cette banque était structurante. Hein, 80% des dépôts des Ukrainiens étaient à la Private Bank. Donc, enfin, ils sont toujours à la Private Bank. Et cette banque, qui était propriété d'un oligarque, Igor Kolomoïski, servait également à fournir des prêts aux entreprises de Igor Kolomoïski, qui possède aussi des intérêts dans le pétrole, qui a une compagnie aérienne, etc. Et donc, l'analyse de la banque centrale à l'époque a été de dire, ces prêts, si cette banque qui est propriété d'un oligarque, qui prête aux entreprises de cet oligarque, cause un risque systémique pour l'économie ukrainienne, il y a un risque que ces prêts ne soient pas remboursés. Et donc a pris la décision de nationaliser et maintenant se tourne vers Igor Kolomoïski pour obtenir que les prêts soient remboursés. Et donc enfin bref, cette question de la private bank continue à courir dans l'économie ukrainienne, mais la Banque nationale ukrainienne a pris quand même des mesures pour essayer d'assainir le secteur. Comme souvent en Ukraine, on peut dire les réformes ont été engagées et vont dans la bonne direction, mais en même temps, elles sont à demi faites. Vous voyez, c'est un peu le problème de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il y a, c'est un pays qui souvent fait deux pas en avant, puis un pas en arrière. Et dans le domaine bancaire, comme dans les autres domaines dans lesquels il faut réformer, c'est un peu comme ça que ça se passe.
Christine Nguyen-Clément, il y a un programme important de Zelensky qui touche aux privatisations.
Alors,
parce qu'il y a encore un secteur nationalisé qui est important en Ukraine aujourd'hui.
Bah, le problème, c'est que dès que vous allez toucher à des entreprises fortes, vous allez aussi toucher à des actifs oligarchiques. Donc rien ne se fait avec simplicité et facilité, rapidité, voire même sans douleur. On parlait du cas Private Bank qui est archétypal, c'est vrai. Donc effectivement, des choses sont mises en place, mais avec du temps. Alain Guillemot parlait très justement donc du travail qui a été fait par la banque nationale ukrainienne. Il faut savoir qu'en termes, pour vous donner une idée de masse, hein, c'est environ 100 banques commerciales qui ont été fermées sur 180, ce qui est colossal. Donc il y a une démarche qui est faite. Mais après, c'est excessivement long, puisqu'il faut en plus avoir une réforme judiciaire derrière, qui soit solide, qui tienne la route, ce qui veut dire la procuration générale, ce qui veut dire avoir une articulation avec les bureaux qui sont en charge des enquêtes, donc type NABU, les services de sécurité intérieure, pour qu'on puisse avoir une cohérence et une lutte aussi sur des pratiques qui seraient détestables, voire quasi mafieuses dans certains cas. Donc évidemment, mais c'est très compliqué et tout ne peut pas se faire en l'état.
Un exemple de pratique quasi mafieuse ?
On a parlé de quand vous savez que vous allez prendre des prêts et que vous savez que vous n'allez pas les rembourser parce que vous savez que vous allez pouvoir faire pression d'un côté ou de l'autre et que donc vous n'aurez rien et rien de saisi. Par exemple, oui. Si vous regardez aussi que, par exemple, vous récupérez des prêts et que vous avez une fuite des capitaux qui est très importante par an d'Ukraine, vous empruntez de l'argent et vous mettez vos actifs à l'extérieur du pays à l'ébreu au lieu de les réinvestir. C'est quand même, pour le moins, un petit peu limite dans la pratique.
C'est contre ça que le président Zelensky essaye de se battre, Christina Kornetska ?
Moi, je ne peux pas dire à la place de M. Zelensky. M. Zelensky, en tout cas, il réaffirme sa volonté de poursuivre les réformes. Donc, c'est une de ces réformes, justement la réforme du secteur bancaire qui a été faite par Mme Gontareva, qui est maintenant... enseignant à Londres. Pour ma part, ou pour la part de certains experts, c'était une des plus importantes réformes qui était faite en Ukraine, donc la réforme de ce système bancaire, et qui l'a d'ailleurs coûté à cette dame qui l'a faite des menaces de mort, et etc. Donc je pense qu'on est sur une bonne voie, et je ne serais pas aussi pessimiste concernant le système bancaire ukrainien. Je pense qu'en fait, elle est assez robuste depuis que la réforme a été faite. Mais il faut mettre un bémol que, justement, par rapport à la private bank, il y a de la part de M. Kolomoïski, il y a des...
Donc c'est l'oligarque, oui, numéro un, voilà. En quelque sorte.
Oui, donc il y a un peu de tentatives de récupérer cette banque, de les réprivatiser pour lui-même. À mon avis, ça ne va pas être possible parce que, puisque l'État a déjà mis beaucoup d'argent pour refinancer cette banque, en cas de la restitution de cette banque à M. Kolomoïski, l'État va retirer tous ces finances qu'ils ont mis dedans et la banque va devenir de nouveau en faillite. Donc soit elle va être banqueroute, soit il sera renationalisé de nouveau.
Plus tard. Ouais. Les oligarques, Alain Guillemot, c'est un vrai pouvoir en Ukraine encore qui sur la route d'une certaine modernisation de l'économie du pays. Ou est-ce que ce sont des acteurs de cette modernisation?
Oui, vous avez raison. Enfin, c'est les deux à la fois. On peut le comprendre de deux manières. C'est-à-dire d'un côté, enfin ces oligarques donc qui se sont installés au cœur de l'économie ukrainienne, enfin dans la période post-soviétique, ils ont réussi à acquérir à bas prix un certain nombre d'entreprises et on peut dire il y en a une dizaine de très gros ont acquis à la fois un pouvoir économique, un pouvoir politique. Tout dépend de la façon dont on regarde les choses. D'un côté, ils ont sauvé des groupes, enfin des entreprises en leur permettant de repartir de l'avant. Mais en même temps, ils ont un poids politique qui fait que Ils sont surtout préoccupés de la sauvegarde de leurs affaires, de leurs intérêts. Et la pression qu'ils font sur le pouvoir politique, c'est toujours au profit de leur groupe, de leurs intérêts, et donc du blocage d'un certain nombre de réformes ou pour éviter de payer des impôts et des choses comme ça. Et donc ça, évidemment, c'est l'aspect un peu noir et négatif de la chose.
Christine Ducoing-Clément, les oligarques, c'est un atout ou c'est un handicap pour l'économie ukrainienne?
C'est en tout cas quelque chose avec lequel il faut faire. Le problème est là. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Il y a beaucoup de réformes qui sont mises en place. Le système bancaire va effectivement mieux et on est dans un calage d'organisation. Mais on n'est pas guéri. Le problème est là, c'est qu'on a encore des choses à faire. Et là où on pourrait avoir quelque part un peu une perversité dans le cercle, c'est que quand vous avez des investisseurs étrangers qui voient la fuite des capitaux, qui voient des taux d'intérêt très forts, qui voient un pays avec un conflit sur son territoire non encore réglé, même si bon, il y a des efforts qui sont faits pour essayer d'arriver à une solution du conflit, la conséquence directe, c'est que vous allez avoir des investissements directs étrangers qui sont très faibles.
Mais moi, si je suis un capitaliste un peu véreux étranger, j'emprunte en Europe à des taux extrêmement faible et je vais placer mon argent en Ukraine à des taux d'intérêt exorbitants et ça me rapporte énormément d'argent. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de flux de capitaux vers l'Ukraine? En général, quand les taux d'intérêt sont très élevés, il y a des capitaux qui viennent se placer.
Parce qu'il faut que vous ayez confiance dans le système, il faut que vous ayez confiance dans la stabilité et dans le fait que vous n'aurez pas un retournement ou un principe de captation des actifs que vous aurez posés pour faire une pratique bénéficiaire. Tant que vous n'avez pas ce principe de confiance-là, c'est extrêmement délicat. Et là, c'est là où je parlais de cercle un peu vicieux. Donc, bien sûr, ce ne sont que des projections. Mais si on arrivait à avoir des investissements étrangers directs plus forts, de l'ordre de 4 à 5 %, on pourrait augmenter le ratio d'investissement et on pourrait augmenter le taux de croissance. Les projections, encore une fois, selon les différentes structures, disent que sous cette configuration-là, on pourrait arriver à une croissance environ de 7%, ce qui se rapprocherait de ce qui serait attendu de l'évolution dans le contexte général. Donc il y a un très très gros enjeu là-dessus, c'est-à-dire effectivement de continuer les premiers travaux qui ont été faits pour avoir un nettoyage, une clarification, une rationalisation du système économique tant bancaire que donc ce travail sur le moratoire des terres, qui est quelque chose de très compliqué, vous l'avez dit. Il y a énormément de réticences. Cela dit, le président Zelensky est dans une position politique où il a une majorité, alors vous avez dit sa popularité a un peu baissé, mais il a quand même une majorité très forte. Donc ce qui laisse en possibilité de pouvoir essayer de porter ce texte-là. Donc on est à des moments charnières, comme souvent, avec une délicatesse assez forte. Vous parliez de la confiance aussi.
Tout c'est le vous dossier, enfin
oui, le dossier américain et tout ce que l'on entend dire n'aide pas les investisseurs étrangers à avoir confiance dans la structure ukrainienne, puisque les médias vous parlent de Ukraine égale corruption de manière systémique, notamment aux États-Unis depuis les affaires avec Trump et les procédures d'impeachment.
La confiance, Christine Ducoing-Clément, dont vous parliez à l'instant, on la trouve dans un endroit un peu paradoxal, dans l'est de l'Ukraine, depuis l'annexion de la Crimée par la Russie. En 2014, c'est la guerre, plus de 13 000 morts selon l'ONU. Et le Donbass fait face à de nombreux problèmes, entre autres avec la faillite de l'industrie minière. Mais à quelques kilomètres de la ligne de front, des entreprises prospèrent et capitalisent sur le savoir-faire scientifique et industriel de cette région. Ces sociétés portent une reprise économique dans le pays et partent même à la conquête de marchés internationaux. L'une d'entre elles s'est même hissée au sommet de la recherche médicale ukrainienne. C'est un reportage d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Sébastien Gobert, qui s'est rendu à Roubigné, je ne sais pas si je prononce bien, dans la région de Louhansk.
Pour trouver Farm Biotest, il faut quitter la route principale de Roubigné, s'engager dans une voie mal pavée entre deux bâtiments en ruine et avancer à travers une friche industrielle. Les locaux flambant neufs de Farm Biotest n'en sont que plus surprenants. À l'intérieur, un espace moderne, aseptisé, bien éclairé, aux peintures fraîches.
À l'heure actuelle, Farm Biotest est le seul laboratoire qui mène des cycles complets d'analyse de médicaments en Ukraine.
Igor Kuznetsov est le directeur de Farm Biotest, un centre d'analyse unique en Ukraine, établi en 2012.
Ici, nous testons la bioéquivalence entre des médicaments princeps commercialisés à l'étranger et des médicaments génériques produits ici en Ukraine et donc vendus moins cher aux consommateurs.
Dans les étages, plusieurs patients volontaires pour les tests de médicaments se reposent dans des chambres confortables pendant la durée des examens médicaux. PharmaBioTest travaille à la demande d'entreprises pharmaceutiques ukrainiennes et étrangères, avec succès depuis 7 ans. Trouver un tel endroit dans l'est de l'Ukraine est une surprise, à une cinquantaine de kilomètres de la ligne de front qui déchire la région. Pour Igor Kuznetsov, le projet s'est en fait imposé de soi.
Les investisseurs qui ont rendu ce centre possible viennent d'ici. Ils avaient toutes les possibilités de partir à Kiev ou plus loin en Europe, mais ils ont préféré construire l'Europe ici, où ils sont nés.
Il y a aussi une dimension pratique et économique à la construction d'un tel laboratoire dans la région.
Monter une entreprise en Ukraine, c'est très difficile. Au moins, ici, les coûts sont moindres. À Kiev, nos dépenses seraient montées au plafond entre le coût de la main-d'œuvre, les loyers, le fonctionnement des équipements.
Reconnu en Ukraine et à l'étranger, PharmaBioTest fait partie de ces entreprises performantes qui ont réussi à survivre à la guerre.
En 2014, il y a eu beaucoup de violence ici et d'incertitudes. Nous avons pensé déménager, nous avons recherché des alternatives. Mais nous n'avons pas cessé notre activité et nos spécialistes sont venus au travail chaque jour.
Non seulement l'entreprise est restée sur pied, mais elle a poursuivi son développement. On trouve dans les couloirs Matt Loudon, un ingénieur britannique. Il a mené plusieurs missions d'entretien du matériel ici, mais il pense qu'il n'aura bientôt plus besoin de revenir.
Ils peuvent régler 90% des problèmes par eux-mêmes. Ils se sont développés sans soutien technique ou scientifique pendant des années. Ils ont beaucoup appris par eux-mêmes.
Ce que Igor Kuznetsov recherche maintenant, ce sont des financements supplémentaires pour développer son offre d'analyse et de traitements médicaux. Il est en cela aidé par plusieurs partenaires étrangers, comme USAID. Il admet que l'état de santé publique en Ukraine est un problème très aigu.
Par exemple, nous voulons développer ici un centre médical qui puisse effectuer des hémodialyses, une méthode d'épuration du sang. Pour vous donner un ordre de grandeur, si en Allemagne 10 personnes sur 1000 ont besoin d'hémodialyse par an, ici en Ukraine c'est une personne sur 1000. Ça ne veut pas dire que les Ukrainiens sont en meilleure santé, cela veut tout simplement dire qu'ils ne sont même pas diagnostiqués et qu'ils meurent sans traitement.
Fin octobre, le président Volodymyr Zelensky a tenu une grande conférence internationale dans la ville portuaire de Mariupol, sur la mer d'Azov, pour appeler des investisseurs internationaux à reconstruire la région. Cet effort de développement est en parallèle avec la relance des négociations de paix, soit des opportunités peut-être de concrétiser les ambitions de PharmaBioTest et de développer d'autres entreprises innovantes dans l'est de l'Ukraine.
C'était un reportage signé Sébastien Gobert dans l'est de l'Ukraine. Dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, sur RFI. Alain Guimols, vous l'évoquiez tout à l'heure au début de l'émission, ces entreprises qui se développent même à l'est de l'Ukraine. Est-ce que c'est ça qui est porteur d'un message, finalement, de développement du pays? Malgré des difficultés, ils arrivent à se développer dans une région extrêmement troublée, où l'économie doit fonctionner de manière très périlleuse.
Alors oui, là c'est un exemple assez étonnant, mais en même temps on a beaucoup d'histoires comme ça en Ukraine. En fait, peut-être ce qu'on n'a pas assez dit depuis le début de cette émission, c'est que un des atouts de l'Ukraine, c'est quand même le haut niveau de formation de sa population, c'est-à-dire qu'il y a quand même un système éducatif qui est solide et qui a une population qui est assez éduquée et qui donc du coup permet à des entreprises étrangères qui le souhaitent de trouver des ressources humaines sur place pour s'ils veulent investir dans la recherche et développement. Et un des secteurs dont on n'a pas parlé, c'est les nouvelles technologies. Il y a quand même une partie de la population qui est très compétente dans ce domaine-là. Et donc l'Ukraine devient une des terres de destination pour des investissements dans le domaine des nouvelles technologies. On voit s'y développer un certain nombre de start-up, dont certaines d'ailleurs commencent à sortir de l'Ukraine. Je me souviens de, par exemple, au CES de Las Vegas, la grand messe, on peut dire, de l'électronique grand public, avoir vu quelques start-up ukrainiennes qui commençaient à faire leur apparition. C'est un endroit qui aussi peut valoriser, peut jouer sur cette carte-là.
Christine Gouin-Clément, vous connaissez ces entreprises qui se développent dans l'est de l'Ukraine? Est-ce que c'est une économie finalement qui réussit à se développer malgré le conflit?
Alors, le problème est toujours le même. Bon, pour nous, il est à l'heure actuelle assez délicat d'aller sur la zone de l'Est, donc et d'avoir des chiffres surtout qui soient stables.
Fiables.
Et oui. Et puis, quand bien même vous avez des chiffres qui vous sont montrés, ce qui est intéressant, c'est de regarder la structuration que vous avez derrière. C'est-à-dire, est-ce que c'est une véritable économie qui fonctionne ou est-ce que c'est un système avec des rétrocontrôles et finalement une coquille relativement vide.
Et ça, qu'est-ce ça que vous appelez des rétrocontrôles ?
Bah, si vous créez un système sur une entreprise qui a l'air de marcher, mais qu'en fin de compte, c'est un vase clos, donc en fait, quelque part, une excroissance et une démonstration de fonctionnement, mais qui est totalement perfusée. Là, vous avez quelque chose qui peut être un peu plus compliqué, donc la visibilité va être assez délicate. Néanmoins, pour revenir sur le volet IT, effectivement, il y a...
Nouvelle technologie, excusez-moi.
Il y a effectivement de grosses compétences, et on voit des sociétés qui sont bien connues en Europe, par exemple comme Betclic ou ce genre de choses, qui vont faire travailler des Ukrainiens donc sur des volets de développement, notamment informatique et logiciel.
Christina Kornetska, vous avez été formée en Ukraine ?
Oui, tout à fait.
Donc vous êtes une démonstration de ce potentiel humain ?
On peut dire comme ça. Mais également, j'étais formée en France également, donc j'ai un double
cursus. Mais double course. Pourquoi ne pas travailler en Ukraine ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'expatriés ukrainiens, de cadres, de jeunes Ukrainiens ou Ukrainiennes qui quittent l'Ukraine parce qu'il est difficile de s'y insérer ? On voit que la population a plutôt tendance à décroître.
Oui, il y a beaucoup de gens qui quittent l'Ukraine, de jeunes également, formés. Je pense que la dernière tendance, c'est également de voir, de travailler, d'acquérir un peu d'expérience. Il y a pas mal de gens qui reviennent. Bon, en tout cas, je veux y croire qu'ils reviennent, qu'ils vont construire quelque chose sur place. Moi, je pense aussi que il y a beaucoup, surtout pour les générations un peu plus anciennes, il y avait beaucoup d'illusions par rapport à possibilité de travailler à l'Occident. Et bon, certains ont fait leurs conclusions et compris que l'Ukraine peut offrir aussi beaucoup d'expertise pour ces gens-là qui sont bien formés et qui, en fait, ils n'ont pas peur de prendre l'initiative.
Alain Guillemol, vous vouliez la parole et ça sera la dernière intervention de l'émission.
Bon, écoutez,
vous allez conclure.
Quelle responsabilité vous me donnez ? Non, je voulais juste faire un petit commentaire. Vous avez évoqué la diminution de la population et en effet, c'est un phénomène réel, mais qui est dû plutôt au déclin de la natalité hein, et qui se manifeste d'ailleurs partout dans toute la région et y compris dans toute l'Europe d'ailleurs et en Russie en particulier. Enfin, on le voit. Cela dit, effectivement, oui, c'est une chose dont on n'a pas parlé. Il y a énormément d'Ukrainiens qui partent travailler à l'étranger, souvent pour des périodes courtes d'ailleurs. Hein, et c'est aussi une des ressources de ce pays, le fait que des Ukrainiens viennent travailler en Europe, en Pologne, en Allemagne, même en France, en Espagne, au Portugal. C'est un flux de devises hein, qui se dirige vers l'Ukraine et qui contribue, disons, à l'argent, enfin aux ressources de la population qui reste sur place. Et puis, il y a aussi une diaspora historique ancienne, des Ukrainiens qui ont émigré à l'époque soviétique et puis qui gardent un attachement à ce pays, qui continuent à le soutenir. On a commencé l'émission en parlant de ce qui se passe, enfin du rapport entre les États-Unis et l'Ukraine. Ce qui joue beaucoup dans cette relation, c'est le fait qu'il y a une diaspora importante aux États-Unis et au Canada, une diaspora ukrainienne, qui donc rappelle périodiquement au gouvernement américain qu'il faut soutenir ce pays et pousse pour une politique américaine plus active dans la région. C'est aussi un des facteurs.
Alors Christine Dugoin-Clément, vous allez me faire mentir, vous vouliez la parole. Alors là,
non,
là c'est vraiment la der des der.
Pour compléter le propos, effectivement, les devises venant de l'extérieur, donc des Ukrainiens qui travaillent à l'extérieur, contribuent. Et ça permet aussi une augmentation donc, de la vente au détail et des biens de consommation qui est un des signes d'embellie économique et qui bénéficie aussi de l'effet Zelensky, de cette espèce d'envolée.
Alors, je ne peux pas ne pas donner la parole à Christina Kornetska, vous envoyez de l'argent en Ukraine ?
Non, pas moi.
Bon, alors cette émission est maintenant terminée. Merci à vous trois, Christine Dugoin, Clément, Christina Kornetska et Alain Guimol, d'avoir accepté l'invitation des RFI, d'y avoir participé à cette émission. Si elle vous a semblé intéressante, dites-le autour de vous. Vous pouvez nous réécouter sur le site www.rfi.fr ou sur l'application Pure Radio de votre smartphone. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Géopolitique.